Vous écoutez On lit pour vous.
Des fraises pour l'Afrique. Un texte de Saïkou Djamé du New York Times, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. Tu vas te casser la gueule, lui a dit son professeur. Il n'a pas écouté. Aujourd'hui, à 36 ans, M. Agné dirige Fraisen, une des plus grandes fermes fraisicoles du pays. Il n'avait jamais pensé à devenir agriculteur. Il avait commencé des études en droit. Mais il a surpris sa famille en se tournant vers la terre quand il s'est aperçu qu'il y avait une surabondance d'avocats au Sénégal. Pour un jeune homme ambitieux, l'agriculture était un choix inhabituel. Au Sénégal, les métiers de la terre sont vus comme le lot des gens âgés, peu instruits ou pauvres. Or, M. Agné a montré que l'agriculture requiert de l'éducation et autant d'innovation que certains domaines de haute technologie et qu'elle procure autant de respect et de rémunération que le droit. Récemment, M. Agné a fait visiter sa ferme de Bayak, à 50 km de Dakar, la capitale, où les fraisiers ployaient sous le poids des belles fraises bien rouges, ce fruit délicat et délicieux. Sa récolte sera vendue par des vendeurs itinérants et dans les supermarchés de Dakar. M. Agné veut faire de la fraise naguère un produit de luxe au Sénégal, un fruit de tous les jours. Nous voulons éliminer l'idée que les fraises ne sont pas pour les Africains, dit M. Agné. Elles peuvent être cultivées ici, vendues ici et savourées par les gens d'ici, surtout nos enfants. Coupe sombre dans l'USAID, USAID. Son objectif vient de se compliquer. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, soutenait l'expansion de cette culture au Sénégal en finançant l'embauche et la formation du personnel. Cette aide a pris fin en février quand l'administration Trump a sabré le budget de l'USAID. Mais les étudiants continuent d'affluer à la ferme de M. Agné. Rama Diane, une étudiante de 16 ans, originaire de Dakar, adore les fraises. Mais elle n'en avait pas mangé depuis un an. Dès son arrivée à la ferme, dans le cadre d'une visite scolaire, Rama en a croqué une. Elle n'était pas aussi sucrée, a-t-elle dit, à propos de celle qu'elle avait mangée l'an dernier à Dakar. Elle devait être importée. M. Agné est très fier du goût unique des fraises qu'il fait pousser dans son pays. Il espère remplacer les importations qui pèsent pour 80 % de la consommation sénégalaise. Mais il veut aussi prouver que l'agriculture peut créer des emplois de qualité dans ce pays où ils sont rares. Au Sénégal, 20 % des jeunes sont au chômage. L'agriculture peut aussi retenir les jeunes au pays, explique M. Agné. Des milliers partent chaque année pour tenter leur chance en Europe ou aux États-Unis, souvent au péril de leur vie. L'USAID a dépensé 27 millions de dollars au Sénégal en 2024. La suppression de cette aide va plonger des jeunes dans le désespoir et alimenter l'immigration clandestine, croit M. Agné. Plusieurs jeunes qu'il a encadrés pensaient se rendre au Nicaragua, puis aux États-Unis, mais il a réussi à les en dissuader. Outre son succès au Sénégal, il avait un argument de poids. Il leur montrait son visa de travail américain et leur disait qu'il était trop occupé et heureux dans son pays pour vouloir traverser l'Atlantique. Monsieur Agnew a grandi en plein air, dans un milieu agricole, où il s'occupait des manguiers et des bananiers de son père. Mais s'il ne se voyait pas dans la production fruitière, « C'était amusant, » dit-il en souriant, évoquant le lien affectif avec son père et la ferme familiale. Il rêvait d'être avocat. Mais il rêvait d'une carrière loin des champs de sa ville natale, Tambacounda. Il voulait devenir avocat et suivre les traces de son grand-père, un imam respecté et juriste de l'époque coloniale. À la fin de ses études secondaires, il a pris le train pour Dakar, une ville qu'on lui avait décrite comme belle, animée et pleine de possibilités. C'était la première fois que je quittais Tambacounda, raconte-t-il. Je me suis perdu et je n'avais pas assez d'argent. Quelques jours plus tard, Agnew s'est inscrit en droit à l'université Cheikh Anta Diop. Mais il a déchanté quand un professeur lui a dit que plus de 2000 diplômés en droit n'avaient pas trouvé d'emploi. Découragé, il est retourné chez lui, inquiet pour son avenir. Mais de retour à Tambacounda, il a appris que son grand-père bien-aimé était non seulement un juriste, mais aussi un important agriculteur qui fournissait du millet et du maïs aux forces françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui avait valu des médailles et la nationalité française. Il est retourné à Dakar, a abandonné le droit et s'est inscrit en agriculture. Cette décision a divisé sa famille. « Certains pensaient que j'étais fou », raconte-t-il. Une vocation à transmettre. Récemment, M. Agnew a accueilli une visite scolaire d'une soixantaine d'élèves. Alors qu'il leur expliquait les principes scientifiques servant à la culture des fraises, leur professeur de biologie hochait de la tête en signe d'approbation. Ce professeur, Alieu Ba, déplore que ses élèves considèrent l'agriculture comme un métier de pauvre. Il faut changer cette perception. Les élèves, ravis, couraient dans les champs pour y cueillir des fraises mûres. « Je suis tellement contente d'être ici », s'est exclamé Rama, ajoutant que c'était sa première visite dans une ferme et que c'était encore plus excitant que ce soit une fraisière. Grâce à cette production locale, les fraises sont désormais moins chères dans les épiceries sénégalaises. Mais à 10 $ le kilo, elles restent inabordables pour beaucoup. Alors que les élèves repartaient, chacun avec une boîte de fraises, M. Agnew inspectait ses plants, qui avaient miraculeusement survécu au piétinement. « Je suis fier de ce que j'ai accompli », a-t-il déclaré. « J'ai fait entrer mon pays sur la carte des producteurs de fraises. » C'était « Des fraises pour l'Afrique ». Un texte de Saïkou Djamé, du New York Times, paru le 22 avril 2025 dans La Presse.
Pourquoi les millionnaires pensent-ils en billets de 10 $? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 4 mai 2025 dans La Presse. Je cuisinais mon fameux chili végétarien l'autre dimanche par une journée pluvieuse lorsque ça m'a frappé. 10 $, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est que j'additionnais mentalement le prix des ingrédients. Et j'ai réalisé que le chaudron qui débordait de nourriture devant moi m'avait coûté environ 10 $. Ça revient à 1,66 $ par portion. Ajoutez du riz et on est autour de 2 $ par portion. Donc, mes 10 dollars me donnent 5 soupers pour une personne. 10 dollars, ça donne aussi 10 déjeuners. 40 cents pour le café, 60 cents pour le pain, beurre d'arachide et banane. Et, comme tout homme grisonnant qui avance dans la quarantaine, je fais mon pain. Je suis la recette populaire de Mark Bittman. 5 minutes d'effort pour 24 heures de fierté. Ça revient à 75 cents la miche. 10 dollars donne donc une douzaine de pains, assez pour plus d'un mois dans notre cas. Je sais, vous pensez que je passe ma vie à calculer ce genre de choses, mais la réalité, c'est qu'une fois que les comportements rapides et efficaces, qui nous rendent plus heureux et plus en santé, sont intégrés à notre quotidien, l'avantage financier est surtout une réalisation que l'on fait après coup. C'est l'excellent dossier, publié dernièrement dans La Presse Affaires, sur les coûts de la livraison de Uber Eats et autres services du genre, qui m'a fait réfléchir à tout ça. Le dossier montre comment Uber Eats s'intègre dans nos vies comme un ami un peu trop intense qui est toujours là pour nous aider. Une petite faim, ne manquez pas ça et profitez-en, disent les courriels automatisés de l'entreprise. Des dizaines de dollars par semaine peuvent y passer parfois davantage. Tout ça sans jamais devoir couper un oignon. Juste à caresser l'écran de notre téléphone et les plats apparaîtraient à la porte. Bien des gens tombent dans le panneau. Parce que oui, c'est un panneau. On pense souvent que s'enrichir, c'est un mécanisme qui, un, est contrôlé par des facteurs extérieurs et, deux, est une affaire de gros sous. On se dit « Ah, si j'allais travailler chez le concurrent avec une hausse de salaire de 10 000 $ ou 15 000 $ par année, là, je pourrais m'enrichir. » Ou bien « Si seulement j'avais une grosse prime de fin d'année, je pourrais épargner et investir. » Non. Vous iriez un peu plus au restaurant, achèteriez davantage de vêtements, changeriez de véhicule un peu plus rapidement et les 10 000 $ ou 15 000 $ disparaîtraient aussi vite qu'ils sont arrivés. S'enrichir est une décision. Pour la plupart des gens, c'est sous notre contrôle et ça n'a rien à voir avec de gros sous. La majorité des millionnaires ne se sont pas enrichis à coup de 10 000 $ ou 15 000 $, mais bien à coup de décision de 10 $. Le problème, c'est que notre cerveau a du mal à faire un lien entre un petit et un gros montant. Uber Eats, petit montant. Être riche, gros montant. Donc, on se dit qu'on est dans deux galaxies différentes. Erreur. On est dans une seule galaxie. Dépenser 50 $ par semaine pour Uber Eats, ça donne 37 600 $ par décennie lorsqu'on suit la règle de 752 qui nous permet de voir ce que donnerait un montant investi à un rendement composé annualisé de 7 %. Pour un couple, on parle de 75 000 $ tous les 10 ans. Sur une vie active, qui s'étire de 20 ans à 65 ans, ça donne 795 000 $ par personne, ou plus de 1 500 000 $ pour un couple. Même en calculant un rendement à long terme de 6 %, ça donne près de 600 000 $ par personne, ou 1,2 million pour un couple. Au risque d'écrire une évidence, très peu de ménages québécois ont 1,2 million dans leur compte de placement à l'aube de leur décennie de retraite. Notez que je n'ai calculé ici que le rendement de 50 $ ajusté chaque année pour couvrir l'inflation par personne par semaine. Absolument rien d'autre. Les grands principes de la richesse sont peu enseignés à l'école, rarement transmis à la maison, et ne font pas l'objet de campagnes publicitaires. Mais les services de livraison de nourriture, eux, font l'objet de campagnes massives de publicité. Ils sont partout, tout le temps. Même nos enfants les connaissent, et donc les utiliser est normal. Si vous êtes déjà riche, ce n'est pas une commande de resto de temps en temps le vendredi qui va changer quoi que ce soit à vos finances. Mais si vous voulez progresser financièrement, c'est une habitude qui va vous éloigner de votre objectif plus vite que vous ne le croyez. Ces leçons ont été écrites par le blogueur financier Peter Hadeney, alias Mr. Money Mustache, il y a plus d'une décennie. Dans son texte, M. Hadeney rappelle que la santé et la liberté financière à long terme passent souvent par des choix simples, mais contre-intuitifs à court terme. Par exemple, il est absolument ridicule d'acheter sa première bouteille de vin ou son premier repas au restaurant si l'on ne possède pas encore un bon vélo et une remorque pour vélo pour transporter ses enfants, la commande d'épicerie en ville ou en banlieue, etc., écrit-il. Il est aussi insensé d'acheter un véhicule luxueux si votre maison n'est pas encore entièrement payée. Et si vous avez encore des prêts étudiants, remboursez-les avant de considérer l'achat d'un iPhone ou de vacances à l'étranger. Pourtant, on fait le contraire. On aligne nos décisions financières dans le mauvais ordre. Ça nous assure de payer des intérêts énormes tout au long de notre vie, de devoir remettre 100% de nos revenus aux autres, de repousser le moment où nos placements se mettent à travailler aussi fort, voire plus fort que nous. 10 $, c'est beaucoup d'argent. 50 $, c'est une petite fortune. Celui qui l'oublie en paye le prix. C'était « Pourquoi les millionnaires pensent-ils en billets de 10 $?» un texte de Nicolas Bérubé, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
La musique québécoise n'est pas moins recommandée par les algorithmes selon une étude. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 6 avril 2025 dans Le Devoir. Les plateformes de diffusion de musique recommandent les contenus québécois aux gens de la province, selon une étude de l'Institut national de la recherche scientifique. Mais les Québécois ne s'y attardent pas particulièrement, délaissant la musique d'ici à la faveur de musiques propices à l'écoute passive. Les algorithmes ne complotent pas contre la musique québécoise, au contraire. L'étude publiée le 3 avril dernier, Recommandations algorithmiques et découverte des contenus francophones sur les plateformes de streaming musical, démontre que la majorité des Québécois se fait recommander du contenu d'artistes de la province par les plateformes. Même que les plateformes ont plus tendance à présenter du contenu québécois aux Québécois que du contenu américain aux auditeurs des États-Unis, révèle l'étude. Pourtant, la musique québécoise ne représente qu'un petit pourcentage de l'écoute musicale des auditeurs de la province. L'étude s'est penchée sur les raisons pour lesquelles le public québécois écoute de la musique en français. Souvent, cette écoute est associée à la volonté de maîtriser, de déclencher ou d'amplifier des émotions spécifiques telles que la nostalgie, la mélancolie ou le besoin de réconfort, est-il écrit dans le document. Les chercheurs ont découvert que dans des contextes qui demandent de la réflexion, comme en étudiant ou en travaillant, le public québécois n'aimait pas les paroles francophones, les considérant comme une source de distraction. Dans ces situations, ce sont les musiques anglophones qui sont les favorites du public. Les plateformes respectent de plus en plus les goûts des auditeurs, explique Romuald Jamet, professeur agrégé en sociologie économique et politique de la culture et chercheur de l'étude. En effet, si les recommandations sont mauvaises ou mésadaptées à ses besoins, l'auditeur est plus à risque de délaisser la plateforme à la faveur d'une autre. Les entreprises tentent de s'ajuster à la demande de leur public, à savoir, selon M. Jamet, la proposition de musique propice à l'écoute passive. Ce ne seraient donc pas les algorithmes qui auraient un effet sur la découvrabilité de la musique québécoise, mais plutôt le manque de diversité de contextes jugés propices pour l'apprécier. D'ailleurs, l'écoute sur les plateformes se ferait en grande majorité, 70%, par la recherche de titres musicaux qui intéressent l'auditeur, plutôt que par l'écoute basée sur les choix algorithmiques, 30%. Achat et consommation, deux batailles. Mais est-ce que l'écoute de musique québécoise a réellement diminué au cours des dernières années? Difficile à dire. Avant, l'économie musicale se basait sur le nombre de disques vendus. Impossible de départager si les disques avaient été écoutés une seule ou des centaines de fois, précise M. Jamet. Aujourd'hui, on ne parle plus d'achat, mais d'écoute réelle. Ainsi, les chiffres peuvent sembler alarmants, mais en réalité, il s'agit plutôt d'une manière différente d'évaluer l'état de l'économie musicale au Québec, selon l'expert en politique de la culture. C'était « La musique québécoise n'est pas moins recommandée par les algorithmes, selon une étude », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 6 avril 2025 dans Le Devoir.
Jean-Michel Blais vous invite au milieu du désert. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 4 mai 2025 dans le magazine Fugue. Jean-Michel Blais ne devait pas sortir un album ce printemps. Pourtant, les mélomanes peuvent découvrir le résultat d'une improvisation musicale dans le désert de Joshua Tree entre le pianiste et la harpiste Lara Somogyi. Récoltant déjà des dizaines de millions d'écoutes à travers le monde, leur offrande musicale, Désert, est comme une bulle de paix à l'abri du monde. Fugue s'est entretenu avec l'artiste québécois entre deux voyages à Los Angeles et Londres. Explique-nous le caractère improvisé de cette création. Quand je terminais ma tournée au Bad avec un quatuor à Los Angeles, ma maison de disques m'a proposé que Lara ouvre pour moi. Je suis super ouvert à cette idée quand ce n'est pas un autre pianiste. Je trouvais ça intéressant avec une harpe, surtout avec son côté électro. Son univers se mélange bien au mien. Donc, on s'est connus ce jour-là. Elle m'a invité dans sa maison à Joshua Tree, le parc national que j'avais déjà visité il y a plus d'un an. Je m'étais gardé quelques jours de plus, alors j'ai accepté d'aller chez elle. Elle et son mari possèdent un studio à la maison. Son mari, Cyrus Reynolds, un producteur de musique de film, avait préparé quelque chose. La veille de mon arrivée, il avait accordé le piano. On s'est mis à jammer. Il a placé deux micros sur la harpe et deux sur le piano. Il a pesé sur « record » sans rien dire et il s'est caché dans un coin. On a joué pendant 2h30, entrecoupé de café et de marche. Au fond, on a joué bien plus qu'on a parlé. Notre langage est devenu celui de la musique. Ensuite, on a visité le parc. J'ai dormi sur place, je suis reparti et j'ai oublié cette session. 6 mois plus tard, Cyrus nous a appris qu'on avait un album. Il avait coupé plein de moments et donné des titres un peu random. En quoi les lieux ont-ils influencé votre musique? Écoute, récemment, je suis retourné là-bas pour le lancement et des sessions photos. J'étais avec mon chum parce qu'on a mélangé ça avec des vacances. Quand on est arrivé au Airbnb, il y avait un coyote devant la place. L'été, il faut faire attention aux serpents à sonnette et aux veuves noires. Ils vivent dans le désert. Joshua Tree est un parc national avec un village à l'entrée. C'est vaste. Il n'y a rien à défricher. Même la route pour aller chez Lara, on dirait qu'on ne voit pas la différence entre la route et le territoire de sable et de cactus. C'est très étrange. Leur maison est vitrée d'un côté et le studio donne directement sur le désert. Il y a une odeur inexplicable sur les lieux, une ambiance, une lumière très particulière. C'était magique, un peu New Age et ésotérique. Il y a quelque chose de mystique qu'on ressent dans la musique. Les harpistes professionnels sont rares. Qu'est-ce qui t'interpelle dans son jeu? Avec la vague néoclassique qu'on a connue, j'ai constaté toute la rigidité et les clôtures par-dessus lesquelles on peut sauter. La harpe est très ancrée dans le celtique, le médiéval ou l'impressionnisme à la Debussy ou Ravel. Il y a plein d'autres choses, mais ce sont les clichés qui ressortent souvent. Il y a donc une possibilité de décoincer ça. Lara transforme son son pour le rendre texturé, électronique et hyper contemporain. Elle utilise un nombre incalculable de pédales. Et ce n'est pas une nobody. Elle a étudié à la Royal Academy of Arts de Londres, une des plus grandes écoles de musique en Occident. À Los Angeles, elle a travaillé avec plusieurs grands compositeurs de musique de film. L'album est différent de tes œuvres passées. Comment décris-tu le résultat de votre impro? Je vois ce que tu veux dire. Ma musique est souvent puisée dans l'improvisation, mais vraiment travaillée. Dans Désert, on peut reconnaître des lignes mélodiques, des choix d'accords et des enchaînements qui sont très Jean-Michel Blais, mais on est dans quelque chose d'éthéré et de spontané, à mi-chemin avec l'univers de Lara. Il y a eu un acte de foi pour accepter de jouer une musique qui n'est pas intellectuelle ni savante. On a fait ce que Satie appelle de la musique d'ameublement. Lorsqu'il se produisait dans les bistrots, il encourageait les gens à continuer de parler quand ils jouaient. Il voulait faire de la musique de fond. On assume notre session d'improvisation extrêmement douce. On sent quelque chose d'unique et d'humain qui permet de saisir la fragilité. Comment ta capacité à créer est-elle impactée par l'époque trouble dans laquelle on vit? La musique me permet d'apaiser ces tourments-là. Ça m'a aussi permis d'apaiser le syndrome de Tourette et l'homosexualité refoulée jusqu'à 18 ans. Le piano est un confident qui m'aide à dire ce que je ne sais pas dire en mots. La création me permet de me rééquilibrer. Parfois, mon chum me dit « Il me semble que ça fait longtemps que t'as pas joué ». Des fois, j'oublie que jouer est un besoin primaire. C'est comme quand tu oublies de manger ou de boire pendant longtemps. À vrai dire, je me sens choyé de vivre de ma musique. Je ne sais pas combien de temps ce sera possible. J'ai le devoir de rendre ça au monde. Cet album va faire du bien aux gens. C'était « Jean-Michel Blais vous invite au milieu du désert ». Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 4 mai 2025 dans le magazine Fugue.